si vous êtes comme moi, mais c'est peut-être pas le cas, mais que vous aimez lire, vous lisez probablement des livres contemporains, et vous êtes peut-être arrivé, ou peut-être que vous avez été obligé par l'école, à lire des livres qui ont été écrits à une certaine autre époque, peut-être dans un autre pays. Et si vous êtes comme moi, il vous est arrivé sans doute de tomber sur des mots, sur des expressions, voire même le bouquin entier, en fait, qui ne vous parle pas du tout. Si nous lisons du Shakespeare, c'est assez compliqué à comprendre, ou une pièce de Molière, ou même les fables de La Fontaine, quand on tombe sur des mots comme ramage ou phénix des hôtes de ce bois, enfin, on se dit, ça a été écrit à un autre moment quand même. Et à bien des égards, la Bible est difficile à lire. Elle est difficile à lire pour plusieurs raisons. Évidemment, elle a été écrite il y a déjà des milliers d'années, sur une période de plusieurs milliers d'années, dans d'autres pays qui avaient d'autres coutumes, dont certaines ont disparu, par plus d'une quarantaine d'auteurs différents, qui avaient des vies différentes, qui avaient des coutumes différentes, des cultures disparues. Mais par-dessus tout, le problème qui fait que nous ne comprenons pas la Bible comme nous devrions la comprendre, c'est notre méconnaissance de qui est Dieu, vraiment. Qui est-il? Comment agit-il? Et pourquoi agit-il? Jésus-Christ l'a bien dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et il parlait de lui-même. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, mais non, nous ne lisons pas la Bible comme nous devrions, nous ne la méditons pas comme nous le devrions, nous ne passons pas suffisamment de temps avec. Et donc, lorsque nous tombons sur des textes, parce, merci Seigneur, il y a quand même des textes qui nous parlent, heureusement, qui sont vraiment des vallées bénies dans lesquelles nous pouvons, telles des brebis, manger à notre faim sur ces pâturages. Et il faut reconnaître bien des textes dans lesquels nous nous demandons, mais pourquoi le Seigneur a-t-il agi de cette manière? Et nous ne comprenons pas. Et le problème, c'est que nous ne comprenons pas sa manière d'agir dans la Bible et nous finissons par ne pas comprendre sa manière d'agir dans nos vies personnelles. Et lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait, nous finissons par penser, et ça a été dit un peu ce matin, que nous méritons certaines choses de sa part. Une certaine forme de justice qui ne nous est pas donnée à un moment donné de notre vie. Et on finit par poser des questions qui finissent par être dangereuses du style « Mais pourquoi fais-tu ça ?» ou « Pourquoi laisses-tu ça ?» ou « Pourquoi n'agis-tu pas ?» Et un de ces textes qui nous interpelle se trouve dans l'Ancien Testament, il se trouve en 1 Chronique 13, mais avant qu'on puisse le lire, j'aimerais simplement présenter rapidement le contexte. L'Arche de l'Alliance, le trésor le plus sacré du peuple juif, cette arche qui avait été donnée à Moïse et au-dessus de laquelle, en fait, le Seigneur se révélait dans le tabernacle, dans le Saint des Saints, derrière le voile. Cette arche de l'Alliance avait été négligée pendant plus de 60 ans par le peuple d'Israël. Durant tout le règne du roi Saül, elle avait été négligée. Les Philistins l'avaient prise à peu près 62 ans auparavant, l'avaient renvoyée 7 mois plus tard, et puis elle avait été laissée à l'abandon dans une maison d'un Lévite, qui était un descendant de Lévi, l'un des 12 fils de Jacob. Et donc, David est devenu roi à présent, et voici ce qu'il dit en 1 Chronique 13. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Puis il dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons partout des messagers vers nos autres frères, dans toutes les régions d'Israël, ainsi que vers les prêtres et les lévites, dans leurs villes et les territoires attenants, afin qu'ils se joignent à nous. Et ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saül. » Toute l'assemblée décida d'agir de cette manière, car cela parut juste à tout le peuple. David rassembla tout Israël, depuis le Chichor, le fleuve d'Égypte, jusqu'à l'entrée de Hamat, pour faire venir de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. Puis, avec tout Israël, il monta à Baala, c'est-à-dire Kirjath-Jéarim, qui appartient à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel qui siège entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf, et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C'était Ouza et Ahjo qui conduisaient le char. David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu, en chantant et en jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Kidon, Ouza tendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Ouza mourut là devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Ouza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Pérets Ouza. David eut peur de Dieu ce jour-là, et il se dit, « Comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne prit pas l'arche chez lui dans la ville de David, c'est-à-dire Jérusalem, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille, ainsi que tout ce qui lui appartenait. Voilà un texte qui fait réagir. Si vous êtes un peu comme David ou un peu comme moi à la première lecture de ce texte, vous vous demandez sûrement pourquoi. L'idée semble bonne. Ramener l'arche de l'Alliance, la ramener à Jérusalem, dans le tabernacle, là où est sa place. L'idée semble bonne. Alors, on y va tous ensemble, et c'est la fête. On le voit bien. Il y a de la musique. Il y a des rires, il y a des danses. On décide de transporter l'arche de l'Alliance sur ce qui se faisait de mieux à l'époque, un char neuf, tiré par 2 bœufs, conduit par 2 personnes pour être sûr que tout va bien se passer. Et puis, on se rapproche de Jérusalem dans les joies, dans la joie, dans les cris, dans la danse, dans la musique. Mais la route est cabossée. Ou peut-être qu'un bœuf trébuche, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais voilà que le char se met à tanguer et l'arche de l'Alliance menace de basculer dans la boue. Alors, une pensée jaillit dans la tête d'Ouza. Un réflexe surgit. Elle pourrait tomber dans la boue. Quel déshonneur! Alors il tend la main pour la retenir. Et là, sans préavis, sans avertissement et sans seconde chance, le Seigneur le frappe à mort pour avoir touché l'arche. Ouza n'avait aucune mauvaise intention. Au contraire, il a simplement voulu retenir l'arche. Il n'y avait rien de mal à ça, quelque part. Sans doute avait-il reçu l'instruction de bien faire attention, de prendre soin de ce coffret précieux, l'un des plus précieux de tout Israël, mais ce simple geste malheureux a causé sa perte. Et là, comme David, nous nous interrogeons. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu si facilement offensé? Quel est ce Dieu si prompt à donner la mort pour quelque chose de finalement si anodin, devrais-je dire, comme cela? Ouza avait juste voulu bien faire et nous aurions peut-être fait pareil. Pourquoi devait-il mourir? Et pourquoi lui plutôt qu'un autre? Pourquoi pas David? Après tout, Ouza ne faisait qu'obéir à ses ordres. Si nous lisons le verset 1, le verset 2, David tint conseil avec les chefs de milliers. Puis David dit à toute l'assemblée d'Israël. Puis David dit, ramenons vers nous l'arche. Puis David rassembla tout Israël. Et David monta là où se trouvait l'arche, avec tout Israël. Qui tient conseil? David? Qui propose de ramener l'arche? David. Qui rassemble tout Israël? David. Et qui meurt? Ouza. Est-ce juste? Comment ont-ils pris cette décision de ramener l'arche? Ont-ils consulté le Seigneur pour cela? Au verset 2, nous lisons, « Si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers, faisons ceci et cela. » Vous allez me dire, c'est pas parce que c'est pas écrit qu'ils ont consulté le Seigneur qu'ils l'ont pas consulté. Mais seulement le verset 4 vient nous montrer qu'ils ne l'ont pas consulté. Verset 4, nous lisons ceci. « Toute l'assemblée décida d'agir de cette manière, car cela leur parut juste. » Cela leur a paru juste. Qui déclare qu'une chose est juste ou pas juste? Qui déclare qu'une chose est bonne ou mauvaise? Qui déclare qu'une chose est autorisée ou interdite, n'est-ce pas Dieu? Alors, je ne dis pas que c'était une mauvaise chose de ramener l'arche, mais qui dit comment la ramener? Et qui dit quand la ramener? Et qui dit par qui la ramener? N'est-ce pas Dieu? Je pose ces questions parce que combien de fois avons-nous nous-mêmes, individuellement, dans notre famille, ou même dans notre assemblée locale, pris des décisions sans même chercher à consulter le Seigneur? Parce que ces décisions nous ont paru justes, ou normales, ou même pire encore, devrais-je dire, on a fait comme tout le monde. D'où venait cette idée de mettre l'Arche de l'Alliance sur un char neuf? Ça n'a pas été choisi par hasard. Les Philistins, l'ennemi juré du peuple d'Israël, avaient renvoyé l'Arche de l'Alliance sur un char neuf, tiré par deux bœufs. Et Israël a copié ce que les Philistins avaient fait. Combien de fois avons-nous nous-mêmes, et je m'inclus là-dedans, fait des choses en imitant ce que les autres faisaient, sans chercher à savoir si c'était bien la volonté de Dieu de le faire, parce que ça nous a paru juste. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Georges Müller? Un petit peu peut-être. Georges Müller, c'est un homme qui a vécu il y a environ 2 siècles, d'accord, et il a eu une vie de foi vraiment exemplaire. Il nous est raconté dans son autobiographie, on a des journaux qu'il a tenus, qu'il a reçu près de 50 000 exaucements à ses prières. Et un grand nombre de ses prières sont écrites. Il nous est raconté en fait qu'il avait un carnet. Sur la page de gauche, il écrivait la prière, et sur la page de droite, il écrivait la réponse à la prière. Et il raconte comment, quand il avait un besoin, il explique comment il agissait. Il disait « Je ne commence pas d'abord par prier, lorsque j'ai un besoin. Je commence par ouvrir la parole, et je cherche dans la parole si une promesse spécifique du Seigneur à mon besoin s'y trouve. Ça peut me prendre plusieurs jours, mais lorsque je trouve cette promesse, je prie cette promesse parce que je sais qu'elle est en accord avec la volonté de Dieu et que Dieu a promis qu'il accomplirait ce que je lui demanderai en son nom, si c'était selon sa volonté. » Saurons-nous prendre exemple sur lui? Nous avons pris, et je m'inclus là aussi, la dangereuse habitude de penser que parce qu'il ne nous arrive rien de fâcheux dans nos vies, Dieu approuve notre manière d'agir ou nos décisions. Mais en fait, ce que cela prouve très certainement, c'est que notre Dieu est un Dieu de patience et un Dieu d'une grande bonté et un Dieu qui est toujours prêt à attendre que nous allions vers lui plutôt que de nous frapper mortellement à la moindre erreur de notre part. Et si vous pensez que c'est qu'une vieille histoire de l'Ancien Testament, d'une époque révolue de l'Ancienne Alliance, alors je veux vous renvoyer à Actes 5 et Ananias et Saphira. Et tout le monde connaît cette histoire, bien sûr, et la manière dont le Seigneur a agi envers eux, parce qu'ils n'avaient pas été fidèles et parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Alors pourquoi la colère de Dieu s'est-elle enflammée contre Ouza? Parce que c'est vraiment ça la question. La réponse, nous l'avons au verset 6, ou un élément de réponse. « Puis, avec tout Israël, il monta à Baala, c'est-à-dire à Kirjath-Jéarim, qui appartient à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel qui siège entre les chérubins. » Qui sont ces chérubins? Nous en avons des descriptions dans Ézéchiel, nous en avons des descriptions dans l'Apocalypse. La première apparition des chérubins, nous la voyons en Genèse chapitre 3. Après avoir chassé Adam, Dieu posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Lorsque nous résumons ce que nous découvrons des chérubins dans la Bible, nous voyons ceci. Ce sont des êtres angéliques, une forme d'ange, qui existent pour magnifier la sainteté et la puissance de Dieu. En plus de chanter les louanges de Dieu, il rappelle également sa majesté, sa gloire, sa présence perpétuelle auprès de son peuple. Sainteté, puissance, majesté et gloire. Quel a été le péché d'Ouza ? Il a désobéi à l'ordre formel de Dieu, donné aux descendants de Lévi chargés de manipuler les choses saintes, et que nous voyons en Nombre 4, et je vous lis le verset. Ils ne toucheront pas les choses saintes, sinon ils mourront. Telle est la charge attribuée aux descendants de Kehath concernant la tente de la rencontre, le tabernacle. Autrement dit, ne jamais, 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 jamais toucher les choses saintes, sinon vous mourrez. Il y avait eu un précédent avec les fils d'Aaron. Peut-être que vous connaissez cette histoire. On la lit en Lévitique 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum. Ils y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Et ils moururent devant l'Éternel. Est-ce que vous imaginez Aaron, leur père ? Comment est-ce qu'il a dû réagir ? Je veux dire, le chapitre d'avant, les prêtres ont été ordonnés. Le tabernacle a été consacré et la gloire de l'Éternel est apparue devant tout le peuple. Et tout le peuple s'est réjoui et s'est prosterné face contre terre. Et deux versets plus tard, voilà les fils d'Aaron qui meurent. Et que répond Moïse à la détresse d'Aaron ? Au verset suivant, Moïse dit à Aaron... C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. » Et Aaron garda le silence. Quel a été le péché d'Ouza ? Ne pas avoir respecté la sainteté de Dieu. Comment ? En ayant eu l'audace de penser que sa main, était plus pure que la boue dans laquelle l'arche de l'Alliance allait tomber. Mais contrairement à l'homme qui s'est rebellé contre Dieu, la terre, elle, a toujours obéi, jour après jour, aux lois et aux ordres que le Seigneur lui a donnés. Lorsqu'elle se dessèche, elle se transforme en poussière. Lorsqu'elle est au contact de l'eau, elle se transforme en boue. Mais l'homme, lui, s'est rebellé. Ouza est mort pour avoir désobéi à un ordre de Dieu. Ce Dieu est-il si dur ? Comment le réconcilier avec l'homme-Dieu, Christ, qui vient nous révéler l'amour de Dieu et la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament ? J'aimerais que nous puissions changer de point de vue à présent. Cet ordre que Dieu a donné, si vous touchez aux choses saintes, vous mourrez. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un autre ordre que Dieu a donné en Genèse à Adam ? Juste avant qu'il commette le premier péché. Genèse 2, verset 17. « Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, le jour même où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Mais Adam est-il mort ? Adam a-t-il obéi ? Non. A-t-il mangé du fruit ? Oui. Adam est-il mort ? Non. Pourquoi ? En Romains, nous lisons que le salaire du péché, c'est la mort. Du péché, qu'importe le péché, du plus petit péché au plus grand, c'est la mort, parce que nous avons péché contre le Dieu trois fois saint. D'accord ? C'est la mort. Et pourtant, seule une trentaine de lois dans l'Ancien Testament, sur les 500 ou 600 qui sont données, conduisent à une peine capitale. Et pourtant, génération après génération, le Seigneur laisse des hommes rebelles lever le poing vers lui avec patience et ne les frappe pas à mort dès leur premier péché. Pourquoi ? Parce que ce livre, la Bible, nous parle d'un Dieu qui fait grâce. Elle nous parle d'un Dieu qui est patient. Elle nous parle d'un Dieu qui ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il vive. Elle nous parle d'un Dieu qui appelle à la repentance encore et encore et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Elle nous parle d'un Dieu qui ne nous punit pas selon nos fautes et qui pourtant demeure juste. Il exerce la justice parce qu'au moyen de la mort de Christ sur la croix, nous lisons en Romains 3, il nous est dit que Dieu démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant du temps de sa patience. Et il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Alors en conclusion, si Dieu est si bon, amour, patient, pourquoi Uzza est-il mort ? Et les fils d'Aaron, et Ananias et Saphira, et peut-être d'autres encore dans la suite de l'histoire de l'Église dont nous n'avons jamais entendu parler. Parce qu'il y a des moments dans la vie où le Seigneur nous rappelle, pour le bien de nous-mêmes et pour le bien de tous, qu'il ne nous doit rien, que la grâce est un don gratuit et que par définition, la grâce se donne volontairement. Et j'aimerais vous donner une illustration qu'utilisait un éminent professeur de théologie et pasteur qui s'appelait R.C. Sproul. Et il disait ceci, lorsqu'il était jeune, en fait, il était professeur dans un institut de théologie et il avait pour la charge d'enseigner les nouveaux étudiants l'introduction à l'Ancien Testament. Et il leur dit, au 1er septembre, à la rentrée, il leur dit, voilà, je sais que c'est une matière qui n'est pas facile, vous allez avoir un devoir tous les mois à rendre et je vous demande de le rendre à temps, au 30 ou au 31, je vous demande de le rendre à temps, sinon vous aurez un zéro. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes ? Tous les étudiants acceptent. Arrive le 30 septembre. Sur les 250 étudiants, il y en a 225 qui rendent leur devoir à temps et 25 qui arrivent tout tremblants. Tremblants, de peur. Monsieur Sproul, nous sommes vraiment désolés. Nous n'avons pas pu rendre notre devoir à temps, mais c'est vraiment notre faute. Nous vous demandons pardon. On n'a pas su gérer notre temps. S'il vous plaît, donnez-nous quelques jours de plus. Ok. Je vous donne 2 jours de plus. Mais attention, la prochaine fois, je veux que vous me rendiez votre devoir à temps. Merci, merci, monsieur Sproul. Arrive le 31 octobre. 200 étudiants rendent leur devoir à temps et 50 cette fois-ci qui arrivent devant monsieur Sproul, les genoux tremblants. Monsieur Sproul, nous sommes vraiment désolés, mais il s'est passé ceci, il s'est passé cela dans notre vie, vous connaissez le calendrier, et puis on n'a vraiment pas suggéré, on vous demande pardon, s'il vous plaît, donnez-nous quelques jours de plus. Ok, pas de problème, je vous donne 2 jours de plus, mais attention, la prochaine fois, je veux que vous me rendiez votre devoir à temps. Oui, merci, monsieur Sproul, il est devenu le professeur le plus populaire de tout l'Institut biblique, quand je vous dis, ils avaient créé une chanson pour lui, c'était vraiment... Jusqu'au 30 novembre. 150 étudiants qui arrivent avec leurs devoirs rendus à temps et 100 étudiants cette fois-ci qui arrivent les mains dans les poches. Impeccable, comme s'ils allaient au Cinoche. Ils arrivent et puis M. Sproul qui regarde l'un d'eux, il dit « Dis-moi, Tom, il est où ton devoir ?»« Ah, mais vous inquiétez pas, je vais vous le rendre dans 2 jours, il n'y a pas de problème. » Ah oui, il n'y a pas de problème. Et là, il prend son carnet de notes et il note 0. Et toi, Michael, il est où ton devoir ? Est-ce que tu l'as ? Non, je ne l'ai pas, monsieur. 0. Et toi ? 0. Et à ce moment-là, une voix s'élève du fond de la classe. Et vous devinez déjà ce qu'elle a dit. Ce n'est pas juste ! Patrick, c'est toi qui as dit ça ? Oui, monsieur. Dis-moi, la dernière fois, tu as bien rendu ton devoir en retard ? Oui, monsieur. Tu veux de la justice ? Très bien. Je te mets 0 aux 2 devoirs. D'autres volontaires d'une justice implacable ? Il faut que nous comprenions la différence entre la justice de Dieu et la grâce de Dieu. À la minute où nous pensons que Dieu se doit de nous faire grâce, ce n'est plus de grâce qu'il s'agit. Par définition, la grâce est donnée volontairement et Dieu n'est jamais obligé de faire grâce à qui que ce soit et particulièrement pas à une créature rebelle. Il ne nous la doit pas. Il le dit en Exode 33, devant Moïse, il dit « J'aurai compassion de qui je voudrais avoir compassion et je ferai grâce à qui je ferai grâce. » Un Dieu saint est à la fois juste et miséricordieux, mais jamais injuste. Alors, la prochaine fois que vous prierez, et que vous demanderez à Dieu justice, évitez de le faire, parce qu'il se pourrait bien qu'il vous la donne. Et nous risquerions d'être emportés aussi vite et aussi rapidement qu'Uza et Ananias et Saphira et les fils d'Aaron. Mais n'oublions pas que c'est par grâce que nous vivons. Et alors je ne l'ai pas noté dans ma conclusion, mais quand même je veux le dire. L'arche de l'Alliance a été amenée chez Obed-Edom et il a été béni pendant 3 mois. Et Obed-Edom était un homme comme Uza. Il n'était pas moins pécheur qu'Uza. Au chapitre suivant, nous voyons David en proie avec des luttes avec les Philistins, qui va voir l'Éternel. Il le consulte, il lui dit « Dois-je monter ?» Et Dieu lui dit « Va, et tu gagneras. » La deuxième fois, pareil, les Philistins attaquent, et David retourne voir l'Éternel et lui dit « Dois-je monter ?» Et Dieu lui dit « Va, mais d'une manière différente. Tu vas près des mûriers, et lorsque tu entendras mes pas dans le mûrier, tu sauras que je suis avec toi, et tu pourras les attaquer, et tu auras la victoire. » Et ce qui m'encourage là-dedans, c'est que David, le chapitre d'avant, n'avait pas consulté l'Éternel. Mais Dieu n'est pas un Dieu rancunier. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que peut-être que nous avons pris de mauvaises habitudes dans nos vies. Mais Dieu n'est pas un Dieu rancunier. N'attendons pas d'avoir fait pénitence pour aller consulter l'Éternel. Il nous attend déjà. Et ce que j'aimerais, c'est que si vous allez le voir, si vous l'interrogez et s'il vous donne des réponses, s'il vous plaît, venez m'en parler. Dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, je veux savoir ce qu'il fait pour vous. Qu'il vous bénisse.